se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, l'iPhone 12 64Go reconditionné est à seulement 299€.
À ce prix-là, ça me fera un super cadeau de fête des mères.
En donnant une seconde vie à un produit reconditionné en France par les experts PRS.
Elle est pas belle, la vie ?
Auchan, avec plaisir. 50€ de remise immédiate sur l'iPhone 12 64Go reconditionné grade B, soit 299€ au lieu de 349. Valeur du DAS sur Auchan.fr. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Kit main libre recommandé.
Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, tout pile. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Pas d'écran avant 3 ans, pas de portable avant 11 ans et pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Voilà les propositions de la commission sur les écrans qui avait été lancée par Emmanuel Macron face au risque d'hyperconnexion des jeunes. L'heure des explications ce matin, les insoumises Mathilde Panot et Rima Hassan, convoquées par la police à 8h30 pour apologie du terrorisme dans des propos récemment sur le conflit au Proche-Orient.
Et ce conflit qui s'installe aussi dans des conflits aux universités françaises. Louis Boyard, le député de la France Insoumise, était hier à la Sorbonne aux côtés des étudiants, interposé même entre les étudiants et les forces de l'ordre. Il sera mon invité à 8h30.
Et puis des retraités pour assurer la sécurité pendant les Jeux Olympiques. Le secteur peine à recruter. Eh bien, une centaine de seniors sont en formation en ce moment.
Parents, grands-parents, ça s'adresse à vous. Les écrans, c'est pas avant 3 ans.
Alors, c'est pas la première fois qu'une étude ou qu'un rapport pointe du doigt l'usage des écrans chez les jeunes. Mais alors, cette fois, ça émane de la commission écran qui avait été initiée par le président Emmanuel Macron. Elle fait donc des propositions, Romain, ou des suggestions parfois radicales.
Ouais, comme l'interdiction pure et simple des écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Même chose dans les crèches, les maternelles, pas de télé, pas d'ordinateur. Concernant le téléphone portable, les experts recommandent de l'interdire jusqu'à 11 ans. Il cause des problèmes de myopie, de sommeil, de sédentarité qui peut conduire à l'obésité. Et après 11 ans, on utilise le téléphone de manière extrêmement limitée, sans internet les premières années et pas de réseaux sociaux avant 15 ans.
Alors les réseaux sociaux sont directement pointés du doigt justement par cette commission d'experts. Ils reprochent au réseau de délibérément capter l'attention des jeunes.
Ouais, ils les accusent sans jamais les nommer des réseaux comme TikTok, Instagram, Snapchat de mettre en place des stratégies de captation de l'attention des enfants via un fil de déroulement infini des publications ou la lecture automatique des vidéos, tout ça dans le but d'enfermer les enfants et adolescents sur les écrans et de les monétiser. Les experts accusent également les plateformes de ne pas réguler leur contenu, les exposant à de la violence et de la pornographie pouvant entraîner les ados les plus vulnérables à de l'anxiété et de la dépression.
Voilà, pas d'écran donc avant 3 ans, les recommandations, préconisations de cette commission écran qui avait été lancée par Emmanuel Macron.
Et ça vous fait réagir, vous n'hésitez pas, au 32-16, vous êtes parents, vous êtes grands-parents. Comment vous faites, vous, pour tenter de protéger vos enfants des écrans? On vous attend au 32-16.
Concernant le phénomène de violence chez les mineurs, à Châteauroux, première nuit en détention pour le jeune de 15 ans qui a été mis en examen hier soir pour le meurtre du jeune Mathis, c'était samedi dernier, sa mère également mise en examen pour lui avoir asséné des gifles après une première altercation entre les deux adolescents qui se connaissaient, hein, comme RMC vous le révélait dès hier midi. Ce drame relance le débat de la violence chez les jeunes. Le Premier ministre Gabriel Attal a entamé comme prévu hier soir une consultation des différents groupes politiques et comme il s'y était engagé il y a une dizaine de jours sur BFM TV, une circulaire pénale a été diffusée hier soir pour appliquer une circonstance aggravante lorsqu'il est question dans ces affaires de préceptes religieux. Expliquez-nous, Nicolas Repère.
La circulaire recommande au procureur de la République de poursuivre avec un caractère aggravant les faits commis en raison de la mauvaise ou de la non-pratique religieuse. Sans les citer, le ministre de la Justice réagit aux récentes violences entre jeunes, par exemple en Alsace, où une ado a été prise à partie car elle ne respectait pas le ramadan, ou en Isère, où un lycéen a été frappé car il aurait embrassé sa petite amie sur la bouche en public. Pas besoin d'une nouvelle loi, fait savoir l'entourage d'Éric Dupond-Moretti. Cette circulaire doit permettre aux juridictions de sanctionner ces types de comportements comme les actes commis en raison de l'appartenance religieuse. Pour tenter de dissuader les auteurs de ce type de violence, la chancellerie demande aussi au parquet une réponse pénale ferme et rapide. Pour gagner en efficacité, les procureurs sont aussi incités à dialoguer davantage avec les acteurs locaux, associatifs ou religieux.
De nouveaux rassemblements pro-palestiniens dans les universités aujourd'hui à Lyon 2, notamment au lendemain du blocage de la Sorbonne à Paris. Au Proche-Orient, le Hamas doit donner sa réponse, doit dire s'il accepte ou non la trêve négociée hier soir avec les pays médiateurs dans ce conflit. Ça se passait en Égypte. Israël a fait une proposition que les Américains qualifient d'extrêmement généreuse. Et alors ce matin, à 8h30 précisément, la patronne des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, et la candidate aux européennes sur la liste LFI, Rima Hassan, sont convoquées toutes les deux par la police pour apologie publique d'actes de terrorisme dans des prises de parole récentes sur la situation au Proche-Orient, hein, Cyprien Pézeril.
L'une est convoquée pour une série de tweets, l'autre pour le communiqué du groupe Insoumis. Le jour des attaques du Hamas, Rima Hassan, figure de la cause palestinienne, candidate aux européennes, et Mathilde Panot, à la tête du groupe Insoumis, ont accepté de se rendre à ces auditions libres. Toutes deux assurent qu'elles font suite à des plaintes d'associations proches du pouvoir israélien. Des convocations pour apologie du terrorisme qui ne présagent pas d'éventuelles poursuites judiciaires à l'issue. Qu'importe ce que décidera la justice, ça crée un précédent dangereux, s'insurge un Insoumis, alors que le camp mélenchoniste dénonce, je cite, une criminalisation des voix pro-palestiniennes. Si l'indignation insoumise est réelle, il y a aussi une part de victimisation, dénonce un élu de gauche. Ça nous permet de mobiliser, reconnaît un proche de Jean-Luc Mélenchon, qui participera comme d'autres à un rassemblement de soutien ce matin.
Le gouvernement se félicite ce matin, au moment où les comptes publics sont dans le rouge. La croissance est de 0,2% au premier trimestre de cette année 2024. Ça traduit la solidité de notre économie. La croissance progresse. Se félicite à l'instant le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. On est à la veille du 1er mai et du coup d'envoi de tous les ponts qui vont rythmer là les prochaines semaines avec quand même une variable d'ajustement, c'est le prix des carburants. Le samplon 95 a pris 13 centimes depuis le début de l'année, selon les chiffres officiels. Le samplon 98 atteint même désormais les 2 euros en moyenne partout en France, selon le comparateur de prix carbu.com. Et alors à Bordeaux, Pierre Borges, correspondant de RMC dans le Sud-Ouest, on y pense forcément au moment de planifier le mois de mai.
Avant de mettre de l'essence dans leur voiture, ces automobilistes ont bien remarqué la récente hausse des prix.
19 litres, 40 euros. Puis samplon 98, on est passé au-dessus de 2 euros. Ça fait mal.
Ça commence à peser quand on fait un plein, ça chiffre vite.
2,39 €, c'est hors de prix quoi. On partira pas beaucoup, hein, c'est sûr.
Chantal voudrait profiter des jours fériés de mai avec ses petits-enfants, les emmener en vacances hors de Bordeaux, mais avec de l'essence aussi chère.
On partira autour de Bordeaux et pas loin, faire un petit tour, mais pas plus.
Faire des concessions pour ses vacances, Laurent y réfléchit aussi. Il part en Corse en voiture, mais une fois arrivé à l'hôtel, il veut limiter les déplacements.
On visitera moins loin, ce sera beaucoup de marches et puis on va adapter, on va dire, nos vacances.
Vacances adaptées, mais vacances quand même. Jean-Baptiste, lui, n'a pas cette chance. Le prix de l'essence, c'est une des raisons pour lesquelles il reste à Bordeaux.
J'ai beaucoup de famille à Strasbourg et je voulais là-bas et je me suis dit, déjà, je ne vais pas pouvoir y aller en voiture, alors qu'avant, j'y allais en voiture tranquillement. Ça me fend le cœur, quoi.
D'après les chiffres du ministère de la Transition écologique, le samplon 98 a augmenté de plus de 10 centimes par litre depuis début 2024.
Et puis, on manque de bras. On manque de bras pour la sécurité privée à l'approche des Jeux Olympiques cet été à Paris. L'accès aux formations d'ailleurs pour ce métier a été facilité. C'est ouvert aux étudiants depuis l'année dernière et depuis quelques semaines, c'est même ouvert aux retraités. Des seniors qui sont démarchés en ce moment pour jouer les gros bras pendant les JO. Il y en a une centaine en formation en ce moment en région parisienne, Aurélien Tersin.
Ils sont 7 dans cette classe à Paris. Parmi eux, Jean-Yves, 65 ans, lunettes et cheveux blancs.
Ça fait de nombreuses années qu'on n'est pas retourné sur des bancs d'école, mais on a l'avantage d'avoir des bons formateurs.
C'est un ex-commercial dans la moto, il voulait absolument participer aux JO.
C'est quand même quelque chose de fabuleux de recevoir les Jeux Olympiques à Paris et de pouvoir y participer en tant qu'agent de sécurité. Oui, ça nous enchante pas.
Les retraités sont formés à la palpation, à la surveillance, à détecter des armes.
Non, des craintes, on en aura toujours, mais on n'y pense pas parce que je pense que ça va être une manifestation qui devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison puisqu'ils ont mis en place pour les tentatives d'attentats et tout. Je pense qu'on est préparé quand même, on a des ressources pour pouvoir parer d'éventuelles attaques comme ça.
Aucun critère physique ni expérience n'est demandé. Le formateur Tariq Benrabé voit même chez les retraités une grosse valeur ajoutée.
95% des situations se règlent avec le dialogue. Quand vous avez une personne justement d'un certain âge qui s'adresse à vous, vous n'allez pas avoir la même réaction. Ça apporte une sorte de sagesse.
Pour Jean-Yves, autre avantage.
Ça permet de travailler un petit peu et de récupérer un petit peu d'argent, ça fait du bien.
Depuis le mois de mars, plusieurs centaines de retraités sont ainsi devenus agent de sécurité en Île-de-France.
Et c'est l'apéro ce soir sur RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télé, début des demi-finales de la Ligue des champions de foot, le Bayern contre le Real, 21h avant demain, le choc que tout le monde attend, notamment Charlemagne, Paris à Dortmund.
Il retient sa respiration d'ici demain soir.
On profite ce soir, on a un bel apéro.
Ce soir, il se détend, demain, exactement. Il est ultra tendu devant sa télé.
Ce soir,
en écoutant sa radio.
Ce soir, on observe notre futur adversaire en finale.
Voilà, la confiance.
Mais oui.
Il est 8h09 et vous êtes bien sur RMC. Je voudrais qu'on parte tout de suite au 32-16 parce qu'il y a Abbé Samad qui nous attend depuis Dommartin dans la Somme. Bonjour.
Bonjour Apolline.
Comment ça va? Vous êtes directeur d'un centre auto qui est ouvert déjà, j'imagine, à Sorcy.
8h30.
Dans 8h30. Vous prenez encore un petit café?
Ouais, c'est ça.
Voilà. Eh ben, on est avec vous. Vous vouliez réagir à ce rapport qui demande pas d'écran, zéro écran, jusqu'à 3 ans et pas de téléphone portable avant 11 ans. Vous êtes vous-même parent? Comment vous faites?
Ben, c'est zéro télé avec ma femme. C'est très dur, en fait, aujourd'hui, d'avoir des enfants qui soient exposés aux écrans.
Très dur.
Donc, on a un enfant de 3 ans et 2 mois et un bébé, un deuxième de 2 mois. Donc, en fait, c'était zéro télé, zéro écran jusqu'à, en fait, ces vacances de Noël, Nouvel An 2023. Ouais. Ma femme est arrivée à terme, en fait, la grossesse. Donc, on a cédé un peu.
Ouais.
On a allumé un peu les télés, puis on a vu, même que des dessins animés, en fait, basiques, mais on a vu vraiment le changement de comportement. Mais vraiment, qui était mon fils, du jour au lendemain, pratiquement est devenu... très sociable, il voulait plus manger avec nous à table, il répondait, il faisait des crises.
Ah oui, donc vraiment la conséquence immédiate. Ouais,
mais
non, quoi.
Mais immédiate, c'est du jour au lendemain. Du jour au lendemain, en fait, ça. Je dis, ça, au bout de trois jours, ça y est, il est devenu scotché devant l'écran. Il se réveillait le matin, il voulait son petit déj devant l'écran, il voulait rien savoir, sachant qu'avant. Et donc, du coup, ma femme a accouché début d'année, puis on a repris la décision de recouper tout, donc zéro écran. Et là, alors quand je vous dis 48 heures, mais c'est 48 heures, il est revenu au début, la télé, il posait des questions, bien sûr.
L'effet, comment ça se fait, l'effet la télé, immédiat.
Mais quand c'est flagrant. Après, ce que je regrette, c'est que les gens ils attendent en fait des commissions.
Oui, vous n'avez pas eu besoin de la commission pour faire le test vous-même, en fait.
Non, ça fait 3 ans. Nous, ça fait 3 ans. Dès le début, on savait que c'était nocif parce que notre génération.
Après, c'est épuisant, comme vous le dites. Il y a des moments où on est épuisé, on lâche, et puis en fait, on le regrette.
Après, voilà, c'est parce que ma femme, malheureusement, moi, avec ma femme, était déjà en congé.
Oui. Et puis, elle était épuisée. Puis, il y a un moment, on a envie de les occuper. Ouais. Non, c'est évident. Mais, franchement, votre témoignage sur le changement, dans un sens, d'ailleurs, comme dans l'autre, de manière aussi évidente, aussi radicale. Merci d'avoir témoigné. Courage, tenez bon. C'est pas facile, honnêtement. Ouais. Mais la décision, semble-t-il, en tout cas, effectivement, vous n'aviez pas besoin de ce rapport, mais il vous conforte dans votre décision avec votre femme. Merci, Abbé Samad, d'avoir appelez le 32-16, vous nous appeliez depuis Dommartin, il est 8h12 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h,
Apolline Matin.
Le drame de Châteauroux, la mort de Mathis, relance le débat sur la justice des mineurs. Mais attention, il ne faut absolument pas revenir sur l'excuse de minorité. Voilà le parti pris dans un instant du magistrat Ludovic Friat. Ses arguments, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et tout de suite, on va lire vos réactions sur l'appli RMC, sur Direct Studio. Et vous réagissez nombreux à ces mobilisations, ces blocages pro-palestiniens dans les facs. Ça fait réagir Fabio qui nous écrit. Bonjour à tous. Oui, il faut empêcher les blocages. Les forces de l'ordre doivent déloger ces quelques bloqueurs. C'est une minorité qui tente de bloquer la majorité des étudiants. Louis Boyard et la France Insoumise manipulent ces étudiants et soufflent sur les braises. Voilà ce que dit Fabio. Lucie, elle nous dit, je suis pas vraiment choqué par ces manifs d'étudiants. C'est presque une tradition en France, dit Lucie, de voir la jeunesse dans la rue ou dans les facs. Ce qu'il faut dénoncer, c'est l'antisémitisme de certains agitateurs, mais ne pas interdire toute forme de soutien aux Palestiniens. Et puis j'ai Bruno qui nous dit, ces étudiants sont maintenant soutenus, récupérés par le régime iranien. Ils devraient s'interroger 2 secondes sur l'image catastrophique qu'ils donnent. La plupart d'entre eux ne survivraient pas 5 minutes face au Hamas. Voilà ce qu'écrit Bruno. Vous aussi, ça vous fait réagir ce matin. N'hésitez pas, vous connaissez le chemin. Pour être en direct sur RMC, il suffit de composer le 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h15 et vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
C'est l'heure du parti pris avec vous, Ludovic Friat. Bonjour. Vous êtes magistrat, vous êtes président de l'Union syndicale des magistrats. Votre parti pris ce matin, c'est de refuser cette remise en cause de l'excuse de minorité que souhaiterait notamment Gabriel Attal ou le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Gabriel Attal, il l'a évoqué. Les syndicats de police, d'ailleurs, disent le réclamer. Mais pour vous, c'est non. Pourquoi ?
C'est non parce que, au fond, quelle est la question ? La question, c'est de savoir, est-ce que les mineurs, jusqu'à 18 ans, sont des adultes en réduction ? et dès lors doivent être jugés comme des adultes, ou bien est-ce que ce sont des adultes en devenir? En devenir pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils sont immatures, leur cerveau est immature, on sait qu'ils sont impulsifs, c'est lié effectivement à l'adolescence, et dès lors, ils doivent être jugés selon des règles qui leur sont propres.
Des règles qui leur sont propres, mais quand vous voyez effectivement cette, revenons sur cette question évidemment à Châteauroux, Mathis, le meurtrier présumé a été arrêté une première fois en février, a été arrêté une deuxième fois en avril, il a été relâché parce que 15 ans et que donc on ne peut faire autrement, et c'est d'ailleurs le procureur qui l'a dit d'une manière presque... On sentait une forme de désolation, disant « je n'avais pas le choix que de le libérer sous contrôle judiciaire parce qu'il a 15 ans ».
Je n'ai pas interprété ce que pense mon collègue procureur de Bourges. Ce que je peux vous dire, c'est que la loi, effectivement, actuellement, nous dit que pour les mineurs de moins de 16 ans, lorsqu'ils n'ont pas déjà été condamnés ou fait l'objet de mesures éducatives et lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 5 ans, ils ne peuvent pas aller en
mais est-ce détention. Que ça, est-ce que ça vous bouleverse? Est-ce que vous vous dites, Mathis est mort fin avril, début avril, on a déjà constaté que ce jeune homme était violent, qu'il avait commis des méfaits violents. En février, il avait déjà commis des méfaits violents. Est-ce que quand même vous vous dites ça trouble? On se dit bon, est-ce que vraiment on doit respecter scrupuleusement la loi, rien que la loi, c'est-à-dire 15 ans, bah tant pis,
oui,
on relâche.
Oui, il faut respecter la loi, rien que la loi. Sinon, on est dans un état de non-droit. Non mais ce que je veux dire,
mais est-ce qu'il ne faut pas la bouger? Est-ce qu'il ne faut pas y réfléchir?
Mais la loi, elle existe. Le CJPM, c'est-à-dire le Code de justice pénale des mineurs, il a été revu, complètement revu de fond en comble.
Très récemment.
Il y a moins de 3 ans. Il est appliqué. Il est appliqué avec difficulté. Pourquoi ? Simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens en termes d'éducateurs, en termes associatifs, pour suivre ces mineurs-là.
Donc pour vous, ce n'est pas un problème de justice, c'est un problème d'éducateurs ?
Pas que, mais les mineurs réagissent par rapport à la société dans laquelle ils évoluent. Est-ce que notre société protège nos mineurs? Je le dis clairement, non. Est-ce qu'ils sont protégés de la violence qui les entoure? Non. Est-ce qu'ils sont protégés de la pédopornographie qui est à tous les coins de rue? Non. Donc, ils réagissent en fonction de cette violence-là.
Mais si on reste sur la question des peines encourues, il y a notamment dans cette réforme de la justice des mineurs qui vient donc d'être mise en application, qui est toute récente, il y a cette séparation entre la culpabilité et la peine.
On appelle la césure.
C'est ce qu'on appelle la césure. J'explique pour ceux qui nous écoutent. Au fond, pour accélérer la procédure, et parce qu'on se plaignait tous, et le ministre, et vous-même, les magistrats, les premiers, de la lenteur, de la difficulté à pouvoir juger rapidement, mais le subterfuge, au fond, qui a été trouvé, c'est de dire, OK, on va juger vite, mais on n'aura pas le temps de juger et de condamner. Donc, on va juger, dire si oui ou non le mineur est coupable, puis dans un deuxième temps, on lui dira quelle peine est encourue. Honnêtement, quand vous avez, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que vous vous imaginez dire à votre enfant, bon, ce que tu as fait, c'est pas bien, un jour tu seras puni. Et puis ensuite, un autre jour, 3 mois, 6 mois plus tard, lui dire, au fait, tu te souviens, je t'avais dit que c'était pas bien, ben voilà la punition.
Faut se méfier du bon sens. Parce que le sujet est trop grave pour être sur du bon sens. Je veux dire, par là, la césure, c'est pas dire, attention, un jour tu seras puni. La césure, c'est prendre le temps, s'agissant de mineurs, s'agissant d'êtres en devenir, de voir comment ils évoluent. Faut pas se leurrer. Le CJPM permet une réponse pénale rapide. Je veux dire, par là, les mineurs qui commettent des infractions et qui sont déjà connus peuvent être présentés au juge des libertés de la détention pour avoir un mandat de dépôt et peuvent être jugés rapidement dans le mois qui suit. Et dans ce cas-là, c'est une audience unique, à savoir l'audience de culpabilité et l'audience de la peine est la même. Donc ces outils, on les a, mais je dis appliquons les outils que nous avons avant de penser à des réformes sans doute qui sont là pour pallier l'absence de moyens pour faire fonctionner les outils qui existent. Je dirais pas, c'est sûr, c'est moins cher politiquement, c'est moins cher économiquement de faire du tout répressif plutôt que d'investir dans l'éducatif. Il faut savoir une chose, souvent les mineurs en danger sont les mineurs dangereux. Et les mineurs en danger, normalement, ils doivent être suivis.
Et c'est d'ailleurs la même justice pour enfants.
En assistance.
S'occupe à la fois de la protection,
oui,
et de la condamnation.
Et la difficulté de l'assistance éducative actuellement. Quand nos collègues juges des enfants prononcent une mesure d'assistance éducative destinée à aider le mineur et sa famille, souvent, elle met entre 1 an et 18 mois à être mise en œuvre. Vous imaginez ce que c'est 1 an et 18 mois pour une famille qui est dans la difficulté, dans la déshérence, pour un mineur qui a 13 ans? Là, pour le coup, ça veut rien dire. Et là, moi, ce que je dis, c'est notre société, nous les adultes, en quoi nous sommes responsables de ne pas aider ces mineurs plutôt que tout de suite vouloir les amener devant les tribunaux comme des majeurs trop rapidement, très rapidement.
Merci Ludovic Friad d'être venu défendre ce matin votre parti pris. Il ne faut pas supprimer l'excuse de minorité. Voilà ce que vous nous dites ce matin. Et je rappelle que vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats. Il est 8h21 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud Demanche est avec nous.
Et bonjour. Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Bonjour. Alors demain, on sera le 1er mai. C'est le jour du muguet. À ce sujet, est-ce que vous savez que le muguet, c'est hyper toxique? Je savais pas ça.
Faut pas manger.
Bah oui, faut pas que les enfants aient envie de.
J'en ai parlé à une spécialiste des plantes, l'écologiste Sandrine Rousseau, qui m'a dit le muguet, c'est aussi toxique qu'un homme blanc hétérosexuel qui fait du mansplaining sur le concept de charge mentale. Ça veut dire que c'est très toxique. Non mais c'est fou qu'on autorise des gens à en vendre. Une gorgée d'eau dans laquelle a trempé du muguet, ça peut être mortel. C'est le Jonathan Daval des fleurs. C'est Guy Georges qui sent bon et qui a des clochettes. Si vous laissez vos enfants dans une pièce avec un brin de muguet, c'est comme si vous les laissiez dans une pièce avec Michel Fourniret. C'est très dangereux. Bon, allez, joyeux 1er mai. Amusez-vous bien à vous offrir du poison. Alors, en ce 1er mai, Marion Maréchal va célébrer Jeanne d'Arc demain à Don Rémy. Alors, l'extrême droite a toujours célébré Jeanne d'Arc. Hein, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan aussi. Vous ne saviez pas, mais la pucelle la plus célèbre de France a été célébrée par le puceau le plus célèbre de France. Notez que si Jeanne d'Arc se fait draguer par Éric Zemmour, je comprends qu'elle ne veuille pas le perdre, hein, son pucelage. Alors, non mais vous imaginez si Jeanne d'Arc était née à notre époque, ça donnerait des drôles d'épisodes de Secrets d'Histoire.
Bonjour. Dans Secrets d'Histoire aujourd'hui, le jour où Jeanne d'Arc rencontre le futur souverain, la pucelle d'Orléans se rend à Chinon pour rencontrer le dauphin.
Bonjour monsieur le dauphin. La régie, on peut être sérieux deux secondes. Je reprends. Bonjour Jeanne, que veux-tu?
J'entends une voix qui me dit qu'il faut bouter les Arabes hors de France.
T'es sûr? C'est pas les Anglais, c'est les Anglais, non?
Non, je vous jure, la voix, elle me dit les Arabes.
Jeanne, au secours!
Vous entendez, c'est cette voix-là, obsédée.
Jeanne, Jeanne, au secours!
Que de souvenirs.
Arnaud, contre le crime organisé, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, veut créer un statut du repenti, comme en Italie.
Oui, en gros, si tu balances tes potes, on t'aide à te planquer. Donc, il y a changement d'identité, changement de région, changement de visage, chirurgie esthétique et tout. Si ça se trouve, Jack Lang, c'est un ancien mafieux, on sait pas. C'est un repenti.
Alors, avant l'heure.
Le garde des Sceaux a précisé que si un repenti commettait un nouveau délit, il serait renvoyé en prison. Donc, avec ses potes qui viennent dénoncer, donc ça doit bien te motiver à pas faire de récidive. Donc c'est inspiré de l'Italie. Alors chez eux, il y a la mafia napolitaine. Chez nous, c'est la Yoda mafia marseillaise. C'est pas pareil pour faire des films.
Je veux la vengeance. Oh mais dis-moi le sang sur la tête de Jules. Il paraît que t'as parlé au Condé. C'est pas bien ça, m'a fraté. Je vais sortir le cross-volé et cabrer, même si la roue est voilée, sur la vie de Basile Boli, t'es un traître. Comme Stéphane Dalmat et Peter Luxeng qui sont partis au
pays. Et je trouve que c'est mieux que l'original même. Ouais. Hein. De toute façon, dès que c'est marseillais, c'est toujours mieux. Hein. Tenez, si CMA-CGM, le groupe marseillais qui nous a racheté, devrait produire ce film. Ce serait excellent, magnifique, parfait.
Vous voulez dire peut-être bonjour patron, c'est
bonjour
ça
patron. Non, voilà. J'aimerais revenir l'année prochaine, patron.
Tom Cruise. Arnaud est de retour à Paris en ce moment pour le tournage de Mission Impossible 8.
Oui, il est increvable. Hein. Tom Cruise, c'est vraiment le Michel Drucker américain. Il a signé un pacte avec le diable pour ne pas vieillir. Après, on s'en fout qu'il soit beau. Hein. On s'en fout. On s'en fout qu'il soit beau.
Non, mais on s'en fout pas du tout.
Et qu'il ait du succès. Et qu'il vieillisse pas. On s'en fout, il fait 1m40, c'est bien fait. Alors, j'ai des contacts même privilégiés dans le monde du cinéma. Et j'ai pu jeter un coup d'œil au premier rush de ce Mission Impossible 8.
Paris, juillet 2024. Ethan Hunt est en mission de surveillance pour les Jeux Olympiques. Soudain, un appel d'un des responsables de la sécurité.
Agent Hunt, bonjour. Je m'appelle Jean Castex et je suis responsable de la
RATP, je suis dingue de toutes les réunions de sécurité et votre mission, si vous l'acceptez, consiste à vous rendre place de la Concorde depuis le 19e arrondissement le 28 juillet. Oh, ça va, ça a l'air facile. Attendez, attendez. Pour ce faire, agent Hunt, vous devez demander au Pentagone de vous fournir une attestation avec QR code pour circuler dans le périmètre riverain, soit la zone bleue sous-dite, attenant au lieu des épreuves de lancer de poids et de beach volley féminin entre le Togo et l'Azerbaïdjan, qui jouxte la zone rouge de transit interdite à la circulation, sauf véhicule de moins de 5 chevaux. Pardon, j'ai perdu mes lunettes. Donc, la circulation sera permise entre 4h et 9h du matin, sauf plaque d'immatriculation impair.
Bien sûr.
Agent Hunt, vous devrez justifier d'une dérogation réservée aux commerçants ou clients de restaurants si vous restez debout et que vous n'empruntez pas les stations Tuileries, Concorde, Trocadéro, Pont de l'Alma et Iéna. Votre itinéraire de circulation circulatoire doit être pré-rempli sur l'application Tous Anti-Circulation afin que nous sachions comment le refuser si nécessaire. Le port du masque sera obligatoire si vous êtes escrimeur ou lutteur mexicain. Putain, c'est la mission la plus impossible que j'ai jamais eue. Jean Castex, on ne sait pas si c'est le gars qui donne la mission ou si c'est le grand méchant du film. Ouais. Allez, bon courage, hein, Jean Hunt. À demain.
Bon courage, Tom Cruise. Merci, Arnaud. Tiens, Arnaud, vous serez en spectacle au Casino de Paris.
Exactement.
Le 15 juin. Toute l'équipe d'ailleurs de la matinale sera là pour vous applaudir. Rendez-vous donc est pris. Est-ce que Manu Le Chip va faire la première partie alors ?
Je ne sais pas. Ça se négocie. On va négocier ça en coulisses.
Hein, ça se travaille.
Des vannes économiques.
Un grand show de l'écho rigolo.
Un numéro de J'aime beaucoup ce concept du grand show de l'écho rigolo.
J'adore.
Le nom est bien.
Ouais.
Le nom est pas mal.
Le nom, on garde.
Après, on verra le contenu.
Il est 8h27. C'était Arnaud Demange. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est le député de la France Insoumise, Louis Boyard, Benjamin de l'Assemblée nationale. Il était hier auprès des étudiants de la Sorbonne pour des blocus. Il est d'ailleurs favorable à tous les blocus des universités. Il répond à mes questions dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Louis Boyard.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes député de la France Insoumise, NUPES du Val-de-Marne. Plusieurs députés de la France Insoumise étaient présents à Sciences Po vendredi pour soutenir le blocus de l'école aux côtés des militants pro-palestiniens. Et vous étiez hier à la Sorbonne, en plein cœur de Paris, pour soutenir les étudiants qui tentaient d'installer des tentes et de mener un blocus. Vous vous êtes d'ailleurs interposé entre les forces de l'ordre et les étudiants. Vous croyez en la démocratie représentative, Louis Boyard ?
Ah, tout à fait.
Tout à fait. Vous êtes vous-même d'ailleurs un représentant de la France.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils étaient 50 ?
Pour avoir été sur place, ils n'étaient pas à 50. Ils étaient beaucoup plus nombreux.
Combien ?
Mais écoutez, je dirais qu'il y avait bien 600 personnes avec tous les rassemblements de soutien qu'il y avait autour.
600 personnes. Alors, parce qu'il faut distinguer deux choses, hein. Les étudiants.
Oui.
Qui était à l'intérieur de la Sorbonne, et les manifestations autour. Les étudiants eux-mêmes, d'après à la fois des observateurs issus de la Sorbonne, mais aussi les forces de l'ordre, ils disent qu'ils étaient 50.
Ah non, mais je suis comme vous. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'étudiants qui soient dans la rue et dans les blocages soutenir ces revendications.
C'est par rapport au nombre d'étudiants à la Sorbonne. Vous savez combien il y en a ?
Oh, je dirais 20 000 en moyenne.
55 000 étudiants à la Sorbonne. Une cinquantaine, peut-être plus, 12 tentes, 20 tentes même peut-être. Tous les amphithéâtres et les salles de cours qui ont dû être évacués, l'ensemble des cours de l'université et les examens qui ont dû être annulés. Est-ce que vraiment c'est l'image que vous vous faites de la question de la majorité et du rapport de la majorité avec la minorité ?
Est-ce que vous pensez très sincèrement qu'il y a une majorité du peuple français qui soutient ce qui se passe actuellement à Gaza ?
Non.
Donc, est-ce que si jamais vous aussi, vous avez une idée de la démocratie représentative, vous n'avez pas honte, comme une majorité du peuple français, de l'inaction de la part du gouvernement français et de l'inaction de la plupart des gouvernements par ailleurs ? Vous avez des étudiants qui ont décidé de se mobiliser pour un cessez-le-feu.
Moi, je ne vous parle pas de la question de la mobilisation, je vous parle de la question du blocage. C'est-à-dire mobiliser, bloquer une université, interdire la tenue des cours, fermer les amphithéâtres.
Je vais répondre à cette question. Ils font quoi si jamais ils n'utilisent pas les méthodes de blocage ?
Ils manifestent.
Vous les écoutez quand ils manifestent ?
Bah oui.
Non, ils ne sont pas écoutés, on ne les regarde même pas. Quand ils font des pétitions, on ne les regarde même pas. Mais alors, dès lors qu'il commence à y avoir des manifestations et des blocages, alors là, on commence à s'intéresser à ces étudiants.
Vous voulez dire qui quand on dit « on » ?
Ah ben, je veux parler à la fois de la classe médiatique et de la classe politique. Attendez, le sujet là, il n'est pas de savoir si jamais ils étaient assez à la Sorbonne ou pas, de savoir si jamais le blocage est une bonne méthode pour pouvoir se mobiliser ou pas.
Moi, ce que je pose
le
comme sujet, question, c'est il la est question de savoir entre la majorité et la minorité et la capacité de blocage.
Mais attendez, je vous ai dit que la majorité du peuple français, et je pense que je peux l'affirmer très sereinement, la majorité du peuple français s'oppose à ce qui est en train de se passer à Gaza. La
je
majorité des jeunes
trouve
que le gouvernement français est totalement
personne n'est favorable à une guerre, personne, je crois.
Ah bah alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore obtenu le cessez-le-feu? L'Organisation des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu. Pourquoi le gouvernement israélien n'applique pas ce cessez-le-feu? L'ultra-majorité des peuples du monde demande à ce qu'arrête le massacre à Gaza.
Qui viennent,
et là, par contre, ce qui commence à choquer, c'est que quand il y a des blocages, alors là, tout de suite, ça commence à choquer. Pardon, moi, ce qui me choque, c'est ce qui se passe à Gaza. Et ces étudiants sont en train de donner une grande leçon à ce pays. Quand on est citoyen de la République française et qu'on a sous nos yeux un génocide, on se mobilise, on utilise tous les moyens qu'on a en notre pouvoir pour obtenir la paix. Ces étudiants sont une fierté. Ils honorent la France et je continuerai d'être à leur côté.
Quand vous dites je continuerai à être à leur côté, est-ce que ça veut dire, Louis Boyard, que vous appelez les autres universités de France à suivre le mouvement?
Ah, alors, c'est les,
à entraîner des blocus.
C'est pour le coup, c'est les étudiants qui doivent eux-mêmes organiser leur combat.
On par sait contre, qu'à Lyon, ouais,
pour
Reims...
le coup, ah, bien sûr, mais par contre, plus il y aura d'étudiants qui rentreront dans le mouvement pour essayer de faire en sorte que le gouvernement français se bouge, mieux ce sera. Parce qu'aujourd'hui, il y a une pression internationale qui est en train de s'exercer, qui fonctionne. Regardez, on ne parle que de ça. Aujourd'hui, on ne parle que de ces jeunes qui ont décidé de se lever pour enfin obtenir la paix.
Vous avez
c'est donc
vu
une bonne
qui, vous avez vu qui en parle, on en parle même dans le monde entier, hein, et notamment l'ayatollah Khomeini, qui vous montre un exemple. Il a lui-même posté des vidéos d'occupation des universités. Il cite la France. Il dit, voyez ce qui se passe dans le monde, dans les pays occidentaux, en Angleterre et en France, ainsi que dans les États américains. Les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. La réputation des États-Unis et d'Israël a été ruinée. Ils n'ont vraiment aucune solution. L'ayatollah Khomeini qui vous prend en modèle. Comment vous
écoutez,
le vivez?
Alors, Viktor Orban, par exemple.
Comment,
le premier, non, mais attendez, je vais vous répondre. Viktor Orban, le premier ministre hongrois, lui, il soutient le gouvernement israélien. Est-ce que vous allez attraper la veste de Gabriel Attal pour lui dire « Alors, monsieur Attal, vous êtes sur la même ligne que
mais
monsieur
vous mettez,
Orban. »
Vous mettez l'ayatollah Khomeini sur non, le même
je vais,
plan
je, vais, mais, je n'ai ni de la sympathie pour l'ayatollah, ni de la sympathie pour monsieur Orban.
Juste, mais je veux dire, non, pour, mais vous, attendez, pour vous, l'ayatollah Khomeini
attendez, c'est pas
et
la
Viktor
question.
Orban.
Non, mais attendez. En octobre, je vais vous donner ma réponse. En octobre, on était en train de dire, non, c'est pas le moment de parler de ce qui se passe à Gaza. D'abord, on doit critiquer le communiqué de la France insoumise. Dans les mois qui suivaient, on disait, non, c'est pas le moment de parler de ce qui se passe à Gaza. D'abord, on doit savoir s'il y a le droit de faire des manifestations ou pas. Là, aujourd'hui, on dit, non, attendez, c'est pas le moment de parler de ce qui se passe à Gaza. Il y a des mains rouges. Ah non, attendez, il y a eu un tweet. Quand est-ce qu'on aura le droit de parler de ce qui se passe à Gaza? Quand est-ce qu'on arrêtera de sauter de diversion en diversion pour faire en sorte qu'on ne parle pas de ce dont une majorité des Français veulent parler?
Je vais
terminer en disant quelque chose. L'ultra-majorité des Français a honte de l'inaction gouvernementale et je pense même à honte de la qualité du débat médiatique aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza.
Je n'ai pas de chiffres là-dessus et je trouve que le rapport sur la question de la majorité et de la minorité est assez
seulement 30% des Français qui font confiance aux médias, ça me paraît quand même être un chiffre qui en dit long.
Et qu'est-ce que vous pensez des sondages, par exemple, sur les européennes qui donnent à 6% la France insoumise
alors,
dans ces cas-là?
On est à 9%. On est en dynamique. Et j'ai même envie de vous dire autre chose. J'appelle, parce que là, aujourd'hui, il y a le sujet quand même de Mathilde Panot, la présidente du groupe, et Rima Hassan, une candidate aux élections européennes, qui sont convoquées à la police pour apologie du terrorisme sans aucun fondement. Je pense que si jamais il y a 10 ans, on avait dit aux Français que la présidente d'un des principaux groupes d'opposition allait être convoquée par la police pour apologie du terrorisme, que des conférences de candidats allaient être annulées, que Sciences Po allait voir une subvention perdue parce qu'une manifestation n'a pas plu à une présidente de région. Je pense que les Français ne reconnaissent pas
les subventions de la région.
Quand on a une haute estime.
Je vous repose ma question, Louis Boyard, parce que vous n'y avez pas répondu. Le fait que l'ayatollah Khomeini, c'est-à-dire le juge suprême religieux de l'Iran, vous prenne en modèle, comment vous le vivez?
Mais ça n'a vraiment, je ne vais pas répondre à votre question en fait, tout simplement. Parce que en fait, je vous ai donné l'exemple. Viktor Orban, lui,
moi,
il soutient la politique.
Orban, mais
moi,
je vous montre que votre
raisonnement
suprême religieux de la République islamique d'Iran.
Je vous montre que votre raisonnement est totalement absurde. Parce que il y a un type de l'autre côté du monde qui a fait un tweet. Alors dans ce cas, ça disqualifie tout le mouvement français.
Ouais, c'est pas un type.
Ah oui, c'est un dirigeant pour lequel je n'ai aucune sympathie, je vous rassure.
J'imagine bien, c'est pourquoi moi, en tout cas, si j'étais soutenu par l'ayatollah Khomeini, ça me mettrait mal à l'aise, au minimum.
Ah non, mais attendez, vous vous rendez compte?
Non, vous non.
Non, mais attendez, mais je vais vous dire, aujourd'hui, on se retrouve à avoir, parce qu'il y a quand même la France...
834 personnes ont été exécutées en Iran l'an dernier.
Et je le condamne. Ce qui se passe actuellement en Iran, particulièrement le combat pour les droits des femmes en Iran, c'est un grand combat. Mais aujourd'hui, la France et plus généralement l'Europe, les États-Unis, se retrouvent dans une telle contradiction quand on se prétend être des pays démocratiques, des pays des droits de l'homme et qu'on soutient ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien. Ça permet à des gens comme ceux-là, des gens qui sont dégoûtants dans ce qu'ils font dans leur pays, de jeter l'opprobre sur nous. Et quand je vous disais qu'ils nous mettent la honte,
vous ne voyez pas une contradiction dans le fait que le combat pour la liberté que vous voulez soutenir soit soutenu par un homme comme l'ayatollah Khomeini?
Non mais écoutez, là, moi je ne suis pas en garde à vue, d'accord? C'est la quatrième fois que vous me posez la question. Viktor Orban soutient le gouvernement israélien. Vous ne faites pas le parallèle. En fait, qu'est-ce que vous cherchez à me faire dire? Et d'ailleurs, en fait, je suis venu ici pour parler de ma présidente de groupe qui se retrouve convoquée pour quelque chose qu'elle n'a pas commis.
Vous êtes venu ici pour répondre à mes questions. Moi, on m'a pas posé de questions. Donc je poserai les questions que j'ai envie.
Bah ouais. Et moi, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe à Gaza aussi.
Mais vous en parlerez sans aucun problème. Je vous parle aussi de ce qui s'est passé hier. Et d'ailleurs,
on doit être à 10 minutes d'interview. Pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet.
Vous n'avez pas décidé d'aller soutenir les étudiants?
Je suis heureux d'aller soutenir ces étudiants. Mais attendez, on a sous nos yeux, et j'utilise les mots de l'avocate devant la Cour internationale de justice, le premier génocide filmé en direct sur nos téléphones.
Non. Alors, on va dire les choses très précisément.
Ça n'existe pas.
Puisque vous citez la présidente de la Cour internationale de justice, j'imagine que vous faites référence à Madame Joanne Donoghue, qui vient de donner une interview à la BBC.
Non,
c'est elle qui a présidé le Tribunal suprême des Nations Unies, notamment le 26 janvier, lorsque la question du génocide a été posée. La question du génocide, le mot de génocide n'a d'ailleurs pas été retenu pour définir l'action d'Israël à Gaza. En revanche, et elle le précise, vous pouvez regarder, elle l'a dit à la BBC hier, elle dit « Je voudrais corriger ce qui souvent a été mal compris dans les médias. L'accusation de génocide aurait été plausible. » Non, elle dit « Il a été jugé plausible le risque pour le droit des Palestiniens d'être protégés du génocide. »
Alors, comment est-ce que vous appelez un État qui tue 40 000 personnes, qui empêche l'entrée de médicaments sur une zone de guerre dans laquelle on ampute des enfants sans anesthésie, dans lequel il n'y a pas d'eau, dans lequel il n'y a pas de nourriture, dans lequel il y a actuellement une famine, dans lequel le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait attaquer Rafah, où se trouvent des millions de réfugiés? Vous appelez ça comment?
Vous appelez ça génocide.
La Cour internationale de justice a expliqué. Il y a besoin d'un certain nombre de mesures conservatoires pour éviter le risque de génocide.
Exactement.
Qu'a fait le gouvernement israélien depuis?
Exactement.
Qu'a fait le gouvernement israélien depuis?
Il y a eu ce risque. Du génocide. Le gouvernement israélien n'a effectivement pas du tout répondu à ces accusations.
Il n'a pas répondu aux mesures conservatoires.
Il n'a absolument pas répondu
aux mesures conservatoires. Donc le risque de génocide est caractérisé.
Et il est d'ailleurs possible, et c'est Nicolas Poincaré qui nous l'expliquait ce matin sur RMC, que Benjamin Netanyahou soit lui-même condamné par un mandat d'arrêt de cette Cour internationale de justice, peut-être même aujourd'hui.
Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que notre gouvernement continue de livrer des armes à ce gouvernement-là?
Vous demandez au gouvernement de cesser toute livraison d'armes, effectivement. Toute vente, hein. Alors c'est pas une livraison d'armes, hein.
Il y a des munitions qui ont été livrées. Mais écoutez, l'ultra-majorité du peuple français observe ces images et dégoûté par ce qui se passe.
J'ai du mal avec vos expressions d'ultra-majorité, d'ultra-minorité, de majorité. Encore une fois, moi, quand je vous dis ils sont 55 000, on peut discuter des chiffres.
Oui, mais moi, dans ce cas, je vous l'affirme et je suis heureux que l'ultra-majorité du peuple français soit aujourd'hui profondément indigné par ce qui est en train de se passer.
Et pourquoi vous n'appelez pas une manifestation, alors, plutôt qu'un blocage?
Parce qu'on est appelé à des manifestations, mais comme je vous le dis, quand on ne bloque pas, vous ne le couvrez pas. La preuve, votre question.
C'est totalement faux. Non, mais Louis Boyard, à un moment, vous pouvez pas toujours vous mettre dans cette position-là. Il y a eu des manifestations de nombreux samedis, d'ailleurs, des manifestations de soutien aux Palestiniens. Vous en avez vu les images sur toutes les télévisions de France, tous les journaux. Et c'est parfaitement normal de couvrir toutes les manifestations.
On ne fait pas des manifestations pour parader. On ne fait pas de manifestations pour notre bonheur. On fait des manifestations pour que les choses changent. Aujourd'hui, les manifestations ne permettent pas de faire entendre au gouvernement français qu'il y a besoin de clamer avec plus de force le cessez-le-feu et qu'il y a besoin aujourd'hui de prendre des sanctions contre Israël. Donc, les étudiants passent au blocage. C'est un honneur, c'est une fierté, parce que c'est le seul mode d'action qu'ils ont pour faire respecter la fierté de la citoyenneté française, à savoir ne pas laisser faire un massacre et un génocide.
Valérie Pécresse annonce en effet la suspension donc de tous les financements de la région Île-de-France à Sciences Po. Ça représentait 1 million d'euros et peut-être même 100 000 euros qui devaient être donnés dans quelques semaines. Comment vous réagissez à cela?
Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec la manifestation de ces étudiants, ce n'est pas possible qu'une responsable politique décide de suspendre les subventions d'une école, et pas n'importe quelle école, Sciences Po Paris, parce qu'elle n'est pas d'accord avec une manifestation.
Et c'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord. Hein. Elle dit que la question, c'est d'appeler à la sérénité et à la sécurité des étudiants.
Non mais vous savez, ça a toujours fonctionné comme ça. Hein, dans les
pour vous, c'est un mensonge.
Ah oui, mais bien sûr que c'est un mensonge, et ça ne justifie pas de retirer les subventions à un établissement, parce qu'en réalité, regardez, si jamais il y avait eu la même manifestation, mais en soutien au gouvernement israélien, est-ce que Valérie Pécresse, elle aurait supprimé la subvention ? Non ! Parce que ce qui les gêne, c'est la revendication de ces étudiants. Et c'est pas normal, quand vous êtes un responsable politique, de retirer une subvention à une école parce que vous n'êtes pas d'accord avec la manifestation. Vraiment, je lance l'alerte à tous les démocrates qui m'écoutent. La France est en train de franchir des paliers en termes de recul de la démocratie et des libertés publiques. Une présidente de groupe et une candidate...
En ce moment même, hein, d'ailleurs.
En ce moment même, qui sont auditionnés par la
Mathilde
police.
Panot,
des conférences annulées, des écoles qui se voient perdre leurs subventions. Mais c'est pas la France, ça. Si à 10 ans, on avait dit aux Français que la France ressemblerait à ce qu'elle est aujourd'hui, avec la répression qu'on a vue sur le mouvement des Gilets jaunes, avec le 49-3 sur la réforme des retraites, quand on a une haute estime de la démocratie, on ne laisse pas faire. Et je veux vraiment que le message passe. Le pire qui puisse arriver, c'est que les gens restent silencieux. Il faut continuer de s'indigner. Si jamais on rend ça normal, alors on a déjà perdu.
Est-ce que votre place à vous, Louis Boyard, était de vous mettre entre la police et les étudiants?
L'objectif, c'est de faire en sorte que les manifestations se passent le plus calmement possible. Et quand on se met entre... Eh ben,
vous pensez vraiment que l'objectif, c'est que ce soit calme?
Ah bah bien sûr.
C'est votre objectif que ce soit calme?
Bien sûr, c'est mon objectif que ce soit calme. Personne ne souhaite que les étudiants se mettent à taper les policiers ou que les policiers se mettent à taper les étudiants.
J'ai eu plusieurs auditeurs ce matin qui appelaient sur RMC pour réagir à la question des blocus. Et ce qui m'a frappé, c'est notamment le témoignage de deux d'entre eux. Il y a Christian qui a téléphoné, qui est porteur de presse, qui se lève à 2h du matin pour aller travailler. Et il a dit, j'ai toujours été de gauche jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Et ensuite, il y a Ali qui a téléphoné, qui lui est chauffeur, livreur de Lidl dans la Loire. Et il a dit, finalement, s'il y avait une guerre entre les choux de Bruxelles et les choux-fleurs, alors là, je suis sûr que je trouverais LFI. Ils sont toujours partout où il y a des conflits.
Ah, ben, parce qu'aujourd'hui, vous avez une France qui est bouillonnante, mais sur beaucoup de sujets. On parle beaucoup de la Sorbonne, de Sciences Po, mais chaque fois qu'il y a une grève d'une usine qui va se faire délocaliser, vous trouvez les députés insoumis. Chaque fois qu'il y a un combat à mener pour la justice, pour l'égalité, pour la liberté, l'égalité et la fraternité, vous trouvez les députés insoumis. Le peuple français est profondément indigné de la situation. Alors on a besoin de députés de combat qui viennent soutenir le peuple. Et ça, c'est la fierté de notre mouvement.
Même entre les choux de Bruxelles et les choux-fleurs?
Ah, alors moi j'aime les deux personnellement.
Donc vous ne vous mêleriez pas de ce conflit-là. Louis Boyard, il y a d'autres points sur lesquels je voudrais vous interroger, et notamment ce drame, oui. La mort de Matisse, qui a été poignardé à mort, et ça lance ce débat sur la question de la justice des mineurs. Je suis frappée de voir que vous avez toujours été pour le droit de vote à 16 ans, et l'un de vos arguments, c'est d'ailleurs de dire, parce que j'ai écouté les interviews de vous, qu'à 16 ans, on est capable de réfléchir, je vous cite, de comprendre et de s'engager. Alors, faut-il qu'à 16 ans, on soit jugé comme un adulte ?
Je suis pour le droit de vote à 16 ans, à la condition, c'est sur le volontariat. S'il y a des jeunes qui veulent pas voter à 16 ans, ils en font pas la demande. Je pense qu'on pose le problème d'une mauvaise manière. Aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des enseignements, on n'enseigne pas le droit. C'est pas vrai de dire que si jamais vous augmentez la répression pénale, vous allez avoir des jeunes qui vont ouvrir le code pénal et qui vont se dire bon bah je vais ne pas faire ça parce que le code pénal prévoit cela.
Oui, ça n'a absolument aucun sens. C'est toujours pareil. C'est à chacun de s'informer, de connaître le droit.
Là, le problème, c'est qu'on parle d'enfants. Et je ne vais pas nier qu'aujourd'hui, il y a un grand sujet
quand
sur
ça
la question
vous arrange,
des jeunes.
Vous dites que c'est des enfants.
Ah,
non,
oui,
mais... non, parce que j'ai écouté vos interviews et honnêtement, quand vous développiez votre idée du droit de vote à 16 ans, vous ne parliez pas du tout d'enfants, justement.
Ah ben, je peux vous parler...
Enfin, vous disiez au contraire qu'ils étaient très mûrs et suffisamment mûrs pour prendre leurs décisions et pour agir en citoyen.
On peut être un adolescent et être très mûr. Regardez, par exemple, ce qu'ont pu faire les lycéens pendant la réforme des retraites. Ce que je veux vous dire...
Il n'y a pas une contradiction, là, Louis Boyard?
Non, il n'y a aucune contradiction. On peut être un adolescent...
À 16 ans, on peut être suffisamment mûr pour voter, mais pas suffisamment mûr pour être responsable de ses actes comme un adulte.
Si jamais vous en faites la demande, oui. Mais par contre, si jamais vous pensez qu'on va régler les soucis en augmentant la répression dans le code pénal, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à un
véritable... Je ne parle pas de la question de l'augmentation de la répression. Je parle de la proposition de Gabriel Attal, reprise par le ministre de la Justice, de pouvoir réfléchir à lever l'excuse de minorité. L'excuse de minorité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas juger de la même manière ceux qui ont moins de 18 ans et ceux qui ont plus de 18 ans.
Ça, peut-être que ça donne bonne conscience à Gabriel Attal. Le problème, c'est que concrètement, sur le terrain, ça change rien. Écoutez, je vais vous raconter.
Mais Louis
Boyard, vous n'êtes pas favorable donc.
Non,
vous n'êtes pas favorable à la levée de l'excuse de minorité.
J'y suis absolument pas favorable parce que, un, premièrement, j'estime qu'il faut protéger les adolescents et leur donner un statut particulier. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas la bonne solution. Vous savez, il y a 6 mois, dans ma circonscription, il y a un jeune qui a été tué. Et j'ai été dans un centre social et il y avait un mur. Sur ce mur, il y avait des jeunes qui le connaissaient ou qui le voyaient juste comme une connaissance de quartier, qui écrivaient des choses sur ce mur. Ils écrivaient « Mais pourquoi tant de violence? Que se passe-t-il à l'école ?» Les jeunes, aujourd'hui, se posent énormément de questions par rapport à une problématique dont on saisit tous. Aujourd'hui,
la question de la violence?
La question de la violence, la question des réseaux sociaux, la question de la santé mentale. Aujourd'hui, Gabriel Attal mène une politique qui est faite pour les gens qui ne vont pas à l'école. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à l'école, on sait que la politique de Gabriel Attal ne change absolument rien. Premièrement, sur la question de tout ce qui se passe dans la jeunesse, consultez les jeunes. Allez voir les jeunes, demandez-leur. Ils n'ont pas une seule fois, ils ont eu la voix au chapitre. Et ensuite, deuxièmement, je ne sais pas dans quel pays vit Gabriel Attal, dans la République de Stanislas ou dans le Stanislasistan, dans des écoles...
Vous faites référence à l'école privée, Stanislas...
Dans des écoles où il y a tous les moyens, où dès qu'il y a une consigne qui est donnée, les professeurs ont le moyen de le faire, où peut-être tous les élèves sont millionnaires ou majoritairement millionnaire comme dans son gouvernement.
Bah, un peu dans un
non, bah si, je vais être provocateur parce que aujourd'hui, vous avez une école à deux vitesses. J'ai vu un article du Parisien qui explique la liste des endroits où il faut habiter pour savoir où est-ce que vous allez avoir l'école qui permettra à votre enfant de réussir. Mais ça, c'est totalement inacceptable. Toutes les écoles doivent permettre aux enfants de réussir. Aujourd'hui, Gabriel Attal mène une politique qui n'a aucun effet concret parce que l'école n'a pas les moyens aujourd'hui de mener sa mission. Donc, le véritable sujet, c'est d'encadrer les enfants. Et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment...
Encadrer les enfants, j'ai bien compris. Mais Louis Boyard, vous n'êtes donc plus favorable au droit de vote à 16 ans?
Je suis toujours favorable au droit de vote à 16 ans. Je ne suis pas favorable pour autant à ce qu'on leur donne le même statut que des majeurs. Parce que ça reste des adolescents.
Sur la question de la GPA, la gestation pour autrui, est-ce que pour vous, avoir recours à une mère porteuse, c'est de l'ultralibéralisme ou est-ce que c'est un progrès social, sociétal? Quelle est votre position?
Il y a un sujet sur le fait que la marchandisation du corps des femmes n'est pas quelque chose qui me paraît acceptable. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où beaucoup de femmes se retrouvent dans des situations de précarité. On parle énormément de la situation des mères isolées. Et donc, si jamais on commençait à mettre le doigt dans tout ça, dans la marchandisation du corps des femmes, alors on rentrerait, pour moi, dans un système avec, pour lequel je ne suis pas favorable.
Vous n'êtes donc pas favorable à l'autorisation de la GPA en France?
Non.
Louis Boyard, sur les écrans, vous l'avez entendu ce matin, pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone portable avant 11 ans. On parlait de la jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec les conclusions de ce rapport? Est-ce que vous dites qu'il faut interdire?
Encore une fois, je veux bien distinguer deux choses. Entre les annonces politiciennes de Gabriel Attal et ce que disent les experts. Ce que disent les experts, c'est que c'est pas une bonne chose d'exposer ses enfants à des écrans dès le plus jeune âge. En revanche, je veux quand même dire quelque chose. Les écrans font partie de la vie des jeunes. Et dire on va enlever les écrans de la vie des jeunes, c'est totalement irréaliste.
Cette opposition entre lire des livres et regarder TikTok, ça fait Gabriel Attal?
C'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est du grand Gabriel Attal. Parce que, en fait, vous pouvez très bien regarder TikTok et lire des livres. Je fais les deux. Et par ailleurs, vous avez même sur les réseaux sociaux des personnes qui font des vidéos culturelles où ils vous apprennent des choses. Il faut arrêter de regarder Internet comme un monde négatif. Internet, c'est incroyable. Ça forme énormément de jeunes. Ça les intéresse au monde entier. C'est une
donc,
culture
pas question,
populaire.
Pas question
Internet.
D'interdire TikTok, pas question d'interdire les réseaux sociaux.
Le véritable sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre aux jeunes à se servir des réseaux sociaux. Il y a un véritable sujet sur le harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, sur le temps passé devant les réseaux sociaux, sur le contenu qu'on peut visionner sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'école n'est absolument pas adaptée à ce que vit ma génération. Donc, pour moi, c'est l'école...
Et vous me rappelez votre âge, Louis Boyard?
J'ai 23 ans.
Non, mais c'est très bien, oui. C'est très bien de le dire. Et vous êtes l'un des deux Benjamin, je crois, de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes député de la France Insoumise, NUPES, du Val-de-Marne. Merci à vous. 8h53 sur RMC BFM TV.